Prions. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui voit et tu es le Dieu qui nous équipe et nous prépare dans ces derniers jours. Merci de nous équiper de ce soir avec une doctrine, avec tes pensées pertinentes. On cherche ta face, Seigneur, et on va t'adorer. Conduis ce moment pour ta gloire. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ouvre notre intelligence, ouvre aussi nos yeux de voir ta parole, Seigneur. Merci. Soyez glorifié. Amen. Hier soir, j'étais dans le train à Lausanne, en route, et je réfléchis sur un thème, et j'avais une pensée sur les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Comment le chrétien, comment que nous pouvons vivre dans ces moments difficiles? On va lire un verset pour commencer. C'est en 1 Timothée chapitre 4. Non, c'est pas 1 Timothée. Pardon, je tourne. Voilà, 2 Timothée chapitre 3, oui. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Dernière lettre écrite par Paul, en train d'attendre d'être martyrisé à Rome, à Timothée. Donc, Paul en train de parler, un pasteur parle à un autre pasteur, un jeune pasteur. Et dans ce chapitre, il commence le chapitre avec le verset suivant. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On est dans les derniers temps. Le dernier jour a commencé après Christ était enlevé. Ça veut dire 2000 ans. 2000 ans de derniers jours. Mais il faut savoir que comme deux pierres, chapitre, est-ce que c'est chapitre 2? 1000 ans pour nous est comme un jour pour le Seigneur. Donc, le Seigneur, pour lui, son temps, on peut penser, voilà, ça va être très long, mais pour lui, imminent. Les choses peuvent passer et changer, une situation peut changer dans un moment. On est dans, en grec, les temps dangereux, fâcheux, stressants, le grec rend le mot dangereux. Cet même mot grec aussi parle d'un démoniaque, quelqu'un qui est possédé, et des caractères des démons. Donc, c'est vraiment stressant, dangereux. On ne peut pas savoir les choses qui peuvent passer. Les choses peuvent changer dans un instant. Comment il faut vivre dans ces moments que, en verset 2, les hommes aiment eux-mêmes plus, ils sont égoïstes, plus de aimer Dieu. Ils sont un amour pour l'argent, mais pas un amour pour Dieu. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ils sont autant blasphémateurs, rebelles. En rébellion contre les parents, ça veut dire aucune autorité. Et si on peut regarder, ça c'est clair. Ingrat, ça veut dire aucune gratitude, aucune reconnaissance. Chaque chose est exigée, mais il n'y a pas un remerciement. Si vous avez travaillé dans des compagnies avec les clients, ça c'est un constat. Les gens demandent des choses. De faire dans le service clientèle, il faut savoir que les gens demandent quand est-ce que tu peux aller un deuxième mille. C'est une expression évidemment biblique, mais de voir que les gens cherchent en fait toujours plus, ils exigent toujours plus. Ça, c'est le caractère de ce monde. Irreligieux, donc vraiment insensible. Donc, sans affection naturelle, un tempérament, aucune maîtrise de soi. On voit comment les gens mangent, voit les gens vivent, voit la publicité qui nourrit ça. Comment on peut vivre avec les gens comme ça? En 1 Timothée chapitre 4, verset 1, que dans ces derniers jours, les démons vont enseigner les doctrines. Comment on va vivre avec ça? C'est presque impossible quand on voit les caractères des gens, les indicateurs, on peut dire, naturels dans le monde naturel. On peut voir beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de conditions, le changement du climat. On peut voir des choses qu'on ne peut pas contrôler, des inondations. Et on peut dire, des gens sont changés, les démons sont en train d'enseigner des doctrines, et le climat est complètement bouleversé. On n'est pas en printemps, maintenant c'est hiver ou c'est été, plein été. Donc, comment on peut vivre ces choses? Well, la première chose que je propose de dire, qui est toujours un constat, toujours quelque chose, un principe, ce n'est pas vraiment le mot, mais c'est quelque chose en vie, en permanence, et les croyants de la première époque, premier siècle, ils ont vécu comme ça aussi, parce qu'ils pensent la même chose. Le Seigneur peut retourner dans un instant. Immanence, doctrine de immanence. Donc, comment on vit? Première chose, Hébreux chapitre 12, verset 2, d'avoir un regard fixé sur Jésus. Il y a des gens qui ont un regard fixé sur l'écran, fixé sur Super Bowl, fixé sur le Eurovision Song Contest, fixé sur Netflix, fixé sur les nouvelles, fixé. Je peux avoir un regard fixé sur le dernier tendance et le mode qui sort de les catwalks de Milan, les gens qui apportent des vêtements à la mode. Je peux avoir un regard sur le changement, toutes les informations. Combien de gens regardent ces téléphones? Ils sont fixés avec les yeux, regardés sur son attel, smartphone, comme ça. Mais le Seigneur dit, avec toutes ces choses en train de passer, je veux que tu me regardes. Comme Pasteur Chibelli a dit, ce n'est pas Facebook. J'ai le visage dans le livre. Il a dit, donc pas Facebook, mais la face dans le livre. Ça ne marche pas en français. Mais il faut savoir que je peux donner une illustration qui est intéressante. Matthieu chapitre 14, versets 27 et 30 à 32, Simon, Pierre, était dans un bac avec les autres disciples sur le lac, pas le lac Léman, le lac de Galilée, et en train de regarder une silhouette de quelqu'un en train de marcher sur l'eau. Et Jésus a dit, c'est moi, ne crains pas, c'est moi, ne crains pas, c'est moi. Et Pierre a dit, si ça c'est toi, Seigneur, appelle-moi de sauter de barque et marcher vers toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Viens. Saut du bateau. Jésus a parlé, Pierre a entendu, c'était pas une décision de lui de faire ça sans l'écoute de Jésus. Jésus dit, viens, suis-moi, et lui, il a fait exactement ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à marcher et les orages, les vagues, le vent, il commence à tourner sa regard sur les choses autour de Jésus et pas sur Jésus. Comme une tempête, comme un orage avec les conditions climatiques dans le lac Galilée. Robert, tu connais très bien les conditions sur le lac Léman. Comment dans le lac de Galilée, les positions des collines, on peut dire montagne, et le position avec le vent qui approche, que descendent, les conditions peuvent changer dans un instant. C'est la même idée que les montagnes, les conditions changent. Il faut être prêt. Si on monte une montagne, il faut avoir des équipements pour ça. Si on va monter assez haut. Sur le lac, les conditions changent radicalement et rapidement, imprévisibles. Et Pierre, là, est en plus un pêcheur expérimenté. Des années, des années, des années sur ce lac. Il connaît le lac comme sa main, en fait. Et lui, il regarde les conditions. Il ne regarde pas Jésus. Nous sommes dans un monde avec des orages spirituels. Et les choses passent dans un moment. COVID a paru comme ça, comme un vent. Et on a été frappés, le gouvernement déstabilisé, les populations troublées. On voit la guerre en Ukraine qui a passé, suivant rapidement après ça, et comment les choses bouleversent. Et les gens regardent les conditions. Net prime, je cherche pour le mot, the debt problem. Prime, yeah. C'est tout ça qui est passé avec une position, avec les investissements sur les dettes en États-Unis. Et tout ce qui est passé dans un moment, bouf, tout est parti parce que la crise de subprime, tout était calculé, balancé sur les dettes de nations, sur les dettes des banques, sur les dettes. Et dans un instant, bouf, et les gens, ils sont perdus énormément. Quand on fait notre confiance dans les autres choses, Dieu peut laisser des vents de vient pour nous déstabiliser dans un instant. Et toute notre discipline et compétence et connaissance et intelligence et notre prévision de le futur ne va jamais calculer pour le Seigneur. Quand le Seigneur vient, tu peux avoir tout, mais tu vas perdre tout. Et donc, pour ceux qui font sa fondation sur les choses comme le sable, évidemment, quand le vent vient et les vagues viennent, c'est fini. Jésus est en train de nous appeler de ne pas regarder les circonstances, mais regarder à lui. En Psaume 34, versets 4 et 5, ceux qui ont regardé à le Seigneur n'étaient pas en train d'avoir une honte. Ils ne sont pas... ils sont pas déçus parce que le Seigneur en espérance en lui, on va jamais être déçu. Les autres, on va expérimenter une honte si on place nos confiances sur les autres choses et les autres choses sont enlevées. Mais parce qu'on accroche à la parole et on accroche à notre Seigneur et notre regard est fixé à lui. Le clé quand j'ai fait Aïkido, on a fait des mouvements et pour un gymnaste, je pense que le même principe. Que quand tu fais des techniques, il faut tourner. Il faut avoir une balance. Donc, on a fait des répétitions de des choses, de tourner comme ça. Et le regard, on fait un 360 rotations. Et d'avoir un regard fixé. Parce que si tu regardes les autres choses, tu vas perdre l'équilibre et l'orientation. Christ est en train de dire, tout va être bouleversé. Mais si ta regard est sur moi, tu ne vas pas expérimenter la déception. Tu vas entendre les autres choses. Bien sûr, on n'est pas ignorant de les choses qui passent. Mais... avec un point de référence sur lui, sa visage. On veut regarder à lui. Isaïe 40, à la fin de le chapitre, les jeunes eux-mêmes, dans la jeunesse et la force de ses vies, vont perdre la force. Mais ceux qui regardent à lui vont voler comme les aigles, parce que sa force est attaché à sa caractère nature. La face, le visage du Seigneur représente sa présence. Et sa présence dans notre vie est de focaliser sur sa présence et pas sur les autres problèmes. Quand Pierre a perdu ça, il a commencé à descendre dans l'eau. Il a paniqué. Mais la bonne chose, le Seigneur a pris sa main et les deux, ils ont retourné au bac ensemble avec la présence de Dieu. Aucune honte si on perd des choses. Le Seigneur est toujours là, mais constamment, on peut regarder à lui. Donc, regarde au Seigneur. Quand c'était Nombre 21, le serpent errant était élevé. C'était préparé par Moïse et c'était posé comme ça. Tout en train de mourir dans le désert, mordre par les serpents avec le venin de serpent. C'était une solution ridicule, mais une solution par la foi et pas par la logique. De regarder aux serpents, ils ont continué de vivre, sauvés, délivrés. Jésus lui-même a dit, comme le serpent, en Jean chapitre 3, en train de parler à Nicodème, il a dit, mais regarde à moi et tu vas être sauvé. Fais confiance en moi. C'est-à-dire quoi en fait? Que ce n'est pas logique. La foi n'est pas nécessairement la logique ou le raisonnement. Les gens vont dire, pourquoi que vous êtes toujours ici? Pourquoi que vous êtes toujours à l'église? Pourquoi que vous êtes toujours en train de prier? Et on peut dire, c'est pas la raison, c'est la foi. Et la foi sauve. Et la foi est la solution pour la vie. Parce que c'est une confiance d'appui sur le Seigneur. Et nous, autour de cette table aussi connectée, je suis en train de confirmer quelque chose que nous vivons ensemble avec les yeux fixés sur lui. La deuxième chose, notre regard en Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oubliable, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Un regard, pas comme quelqu'un regarde dans le miroir et oublie sa visage, mais un regard et un rappel de la chose que nous avons lu. Ça veut dire, comme nous avons dit, notre regard est dans sa parole et c'est la parole qui nous rend libres. Donc, de regarder la loi parfaite et de nous rendre libres dans nos vies. Parce que, comme nous avons dit, une parole pour rendre nous libres. Délivrance et une parole et on peut dire, wow, transformation. Dans un instant. Et de plonger le regard, le psalmiste, Esdras, lui-même, en Psaume 119, verset 25, il a dit, « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles dans ta loi, ta doctrine, en bref. » La loi parle des 10 commandements, mais la loi qui parle de la doctrine de Dieu. Il est en train de regarder et lui, il a passé par des choses horribles en marchant en exil vers Babylone. Esdras qui écrit Psaume 119, mais de voir comment la solution n'est pas de regarder aux situations, mais regarder au Seigneur et regarder sa parole. Et d'être enraciné dans la parole et d'avoir les points de référence et d'avoir, je vous encourage, un verset Réma, cherche un verset Réma. Ouvre mes yeux, montre-moi un réma, une parole personnelle pour moi aujourd'hui, afin que quand je passe l'orage, je peux dire je suis sûr du Seigneur et je peux faire une confession de la foi. Et j'ai des versets dans mon cœur. Et comme nous avons dit, quand la parole entre en Psaume 119, verset 130, c'est un éclair, c'est tout est illuminé dans mon âme. Et quelque chose peut être une transformation. On pense de, quel est le mot? Ce qui offre une aide et conseil, le mot en français, c'est une relation d'âme. Je crois que c'est quelque chose comme ça, j'ai l'expression utilisée. Cure d'âme, merci. Mais le meilleur conseil pour le chrétien commence avec sa parole. Et c'est ça qui nous rend libre. Je sais, Seigneur, quand je suis attaqué dans ma vie, je peux confesser à 2h le matin ou 5h le matin que ta parole me rend libre. Que je suis merveilleusement créé dans ton image et je vais vivre pour éternité avec toi. D'avoir ces confessions. On va voir pourquoi ces choses sont importantes en suivant. Mais la troisième chose, on a raconté ce verset, mais il faut retourner dans ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 25, point numéro 3. On fait des choses ensemble parce que nous vivons ensemble, parce que l'Ecclésia, l'Église, on a besoin de nous-mêmes, on a besoin des autres. Actes chapitre 2, ensemble, en unité, en accord avec les mêmes pensées. Philippiens, l'épître de Philippiens. Le mot, deux mots ici, joie, et le deuxième mot, c'était une unité, c'était avoir une pensée unique, une pensée collective, une pensée ensemble. Ça veut dire pas un secte avec un lavage de cerveau, mais le corps de Christ qui révèle, ah, on est les mêmes pensées parce que, pourquoi? On est en train de regarder le même Seigneur ensemble, on est en train de regarder sa parole et on est ensemble. Et ensemble on écoute et ensemble ça va transformer les vies. Parce qu'il y a quelque chose, cette merveilleuse illustration de Pitcher, qu'il a montré sur l'estrade, qu'il y a un groupe de gens. Et il a dit, quand tu tournes et vous êtes dos de ça, et personne ne peut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de passer, qui est dos. Mais ceux qui sont deux dans le cercle comprennent parce que l'esprit est en train de parler, et pour ceux qui sont là, ah, c'est pas pour dire de condamnation si on peut pas être là. Mais c'est pour dire, soyons de cette conviction qu'il faut être là. Il faut boire de la sauce de la vie. Il faut manger la parole. Il faut écouter des choses. Parce qu'il faut savoir une chose. On est en train d'être équipé. Certains sont dans l'armée, dans le passé. Et comprendre le sens d'avoir un équipement, une unité qui opère ensemble, un chef de bataillon ou chef de unité, qui unité avec une vision, ok, on va tous faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. On est tous équipés et préparés et opérer ensemble et fonctionner ensemble. Cette idée de hupotasso aussi, soumission d'être sous quelque chose dans un autre militaire, ça veut dire je suis sous l'autorité de quelqu'un d'autre, comme Jésus était sous l'autorité de son Père, et le centurion a compris le principe de ça, et on commence à prendre ces principes, ces valeurs, ces caractéristiques du corps de Christ, parce qu'on est immersé dans le corps de Christ. On est premièrement placé dans le corps de Christ en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Baptisé par l'Esprit dans le corps de Christ. Mais ça, c'est le corps de Christ universel. On parle maintenant de l'Église locale. C'est là que le Seigneur m'amène. Et c'est là que j'apprends. Et c'est là que je comprends la grâce. C'est là que, comme on en dit en Jacques 1, on va apprendre de mettre en pratique les choses qu'on écoute et on dit oui. Donc, ensemble, ensemble, ensemble. Actes chapitre 1, verset 42, ensemble, persévérons ensemble, chapitre 1, verset 44. De quoi ensemble? D'apprendre le doctrine des apôtres ensemble, d'avoir communion ensemble, d'appliquer la doctrine ensemble, de prendre la Sainte Cène ensemble, de prier ensemble pour les croyants, les premiers croyants de l'Église. En Actes chapitre 2, ils ont compris une chose très rapidement. C'était ensemble, ils ont fait des choses. Et donc, Hébreux chapitre 10, verset 25, on ne va pas négliger la provision que Dieu a donnée, c'est le corps de Christ. C'est notre sauvegarde, c'est notre lifeguard, c'est notre secours pour nous, le corps de Christ. Le corps de Christ peut littéralement être là pour sauver notre vie physique. Il y a des gens qui peuvent être en subjectivité. Et le corps de Christ, quelqu'un peut dire, waouh, je suis là, ma vie, je suis en vie parce que je suis là dans le corps de Christ. Et j'ai des amis autour de moi qui disent, fais attention, pas de bêtises, ok, reste ici. Et il y a des fois que les gens ont dit une parole à propos de ma vie quand j'étais en train de regarder dans l'autre direction et je dis, waouh, comment ils ont ça? Qu'est-ce que je suis en train de parler? Et ils ont compris. Ils n'ont pas compris, mais le Saint-Esprit a compris. Il a amené un ami pour m'aider. Absolument essentiel, corps de Christ. Ça, c'est point numéro 3. Point numéro 4. OK, point numéro 4. 1 Timothée chapitre 1, verset 4. On va définir le titre pour cet point. 1 Timothée 1, 4. Seconde, est de ne pas s'attacher à des faibles, fables et des généalogies sans fin, entamables, le dit le Darby. Ah, c'est red pas, merci. Qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'advancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça veut dire produire les disputes. Qui va jamais avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Comment je peux dire ça? Le COVID a révélé quelque chose de nouveau. Le fake news, les faux nouvelles. C'était déjà là, mais beaucoup plus pendant la pandémie. Des choses en train de circuler sans cesse. Et est-ce qu'une fable parle de quelque chose qui est totalement faux, incompréhensible, incohérent, détaché de la vérité? Non. Le mot en grec ici parle de quelque chose et le grec classique, les écrivains de classe grec classique, est aussi mentionné, le nuance de ce mot parle de quelque chose qui peut sembler rationnel. Avec un sens de informé, ce n'est pas totalement le faux, mais c'est quelque chose, en bref, qui nous amène loin. Je vais donner des nouvelles. Maintenant, j'ai la date pour l'enlèvement. Je sais exactement quel mois. Et je connais le nom de l'Antichrist et je sais qu'est-ce qu'il mange pour le petit déjeuner. C'est très bien, hein? Mais tous ces fables, tous ces
Mamos.
Créations, tout ce qui était donné est pour là, pour nous amener loin de Dieu. Parce que qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment pour Paul de parler de ça? La chose qui a passé est qu'il y a des gens dans l'Église en train d'attacher les fables juifs. Parce qu'il y a un côté de judaïsme, la religion, s'appelle... Kabbalisme? Non, je cherche pour le mot.
Kabbalah.
Kabbalah. Et le Kabbalah est quelque chose mystique. Ça veut dire toutes ces choses d'or de la Bible. Et en fait, qui, je cherche pour le mot, on va tourner dans un rond d'imaginer choses, c'est la spéculation. Rien peut être prouvé, donc c'est des légendes, c'est des histoires. Mais n'avance pas la vérité. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons peut-être des gens sauvés et des gens pas sauvés. Mais il tourne dans un rang. En 2 Timothée chapitre 3, c'est les gens qui avancent dans la connaissance, mais la connaissance ne va jamais arriver à la vérité qui sauve. Parce que la Bible nous rend libres, n'est-ce pas? Jésus et sa parole nous rendent libres. Mais si on est dans la spéculation, que exactement quand que le temple va être construit, oui, ces choses sont intéressantes. C'est bien d'être informé que nous avons le vache rouge déjà en Israël. Russe, merci. Et les Russes aussi. Je blague. Pardon. On va retourner la concentration, mais merci, je ne peux pas résister de dire ça. Il y a beaucoup de spéculation dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui sont obsédés par ces détails. Si on connaît que l'Illuminati existe, si on connaît qu'il y a des rites en train de passer dans les hautes places, dans les politiciens, les gouvernements, et quoi? Une chose que je connais, l'Antichrist est en train de préparer son système, mais il est empêché par le Saint-Esprit, et dans un jour, le Saint-Esprit va être enlevé. On est avec le Saint-Esprit, sinon on va partir. On ne va jamais connaître le caractère pendant qu'on est sur la terre de qui est l'Antichrist. Et pour moi, je ne veux pas rester avec les nuits de manque de sommeil à cause de ça. Les nuits blanches, les nuits noires, les nuits comme vous voulez. Non, je vais rester et dormir parce que la chose qui est importante, je connais et je veux avancer dans la vérité. Je veux regarder à sa parole, je veux regarder à lui. Toutes ces spéculations ne vont jamais arrêter. Les généalogies, c'était toujours la même chose. C'est le même esprit pour déranger et pour distraire. C'est une distraction. Il y a des gens qui viennent, qui sont obsédés par ces choses. Ah oui, mais est-ce que tu sais avec le vaccin, tout ça? Oui, mais tu sais qu'est-ce que ces choses font? Amène à les disputes. Et moi, je l'ai dit dans cette église, et je voudrais dire, on ne va jamais être divisé par ces choses, parce que qu'est-ce que peut passer? Le diable cherche pour diviser, et ces choses peuvent être intéressantes, mais ces choses vont diviser des gens. Et l'église ne peut pas vivre ça. On ne peut pas vivre ça. S'il y a des choses qui passent et les gens transmettent une information spéculative, imaginaire, intéressante, merci, mais je n'ai pas le temps de regarder ça. Je dois regarder les choses qui comptent. Ma vie est déjà assez occupée. J'ai des choses chargées. Je ne suis pas là d'avoir plus de spéculation. Je veux savoir la vérité. Je veux connaître la vérité. Et avance parce que nous sommes sur la terre pour édifier le corps de Christ et pour amener Jésus-Christ pour sauver des âmes. On était là ici, on peut exactement ça. Et on est là pour faire ça ici sur place. Si on perd ça, on va perdre notre force et notre puissance et notre lumière. On va être une église sans un témoignage. On va être juste un groupe de gens en train de tourner sur les choses obsessives. Endless genealogies, les généalogies sans cesse. Ça ne va jamais arriver de dire « arrête ». Non, ça va toujours trouver quelque chose de plus. C'est comme une addiction, en fait. Tu toujours continues, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, on doit arrêter ces choses. On va laisser ces choses tomber. On doit dire à quelqu'un, le point est ça, écoute pas ces choses. Ça, c'est le point 4. Écoute pas ces légendes, écoute pas ces histoires parce qu'elles ne mènent pas à la vérité, à la vie. J'ai soif, j'ai besoin de boire. Et si je suis obsédé avec quelque chose comme ça, je ne vais pas boire la vie. J'ai besoin de la vie. Point numéro 5. Aime pas le monde. Aimez pas le monde. Le mot en Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre de 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont de le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Rappelons le verset qui dit il faut, on ne peut pas aimer le maman, on ne peut pas aimer l'argent, l'amour de l'argent, et Dieu en même temps. C'est un ou l'autre, c'est exactement ici la même chose. Si on aime le monde, Démas, un chrétien, a aimé le monde. Pasteur Schaller a raconté une histoire d'un homme missionnaire dans l'équipe à Budapest en train de regarder. Il était là en train de boire un café, en train de regarder la ville. Et son cœur n'était pas avec eux. Et après un certain temps, son corps n'était pas avec eux non plus. Il a disparu. C'est totalement possible pour quelqu'un de commencer à, comme un vacif, en train de partir dans cette direction. Oh, c'est tellement bien le Suisse. Des fois, j'ai dit, très bonne réflexion. Oh, si on peut vivre dans un joli chalet en Valais. Oh, les vaches là. Oh, on mange le fromage. Oh, en été, c'est du barbecue. On peut inviter des amis. Oh, on a un très bon regard de la ville de Sion. Oh, c'est tellement joli. Pas besoin d'être bloqué dans les bouchons à Genève. La vie plus simple ici, oui. Regarde, passe-moi le jumel si vous voulez. Regardez ça sur RTS. Oh oui, c'est magnifique. Oui, mais ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que Pierre dit? Tous vont être brûlés. Ça veut dire ce monde avec tous ses contenus, toutes les choses brûlées dans un instant. Si vous voulez avoir des fantaisies comme ça, des choses comme ça, c'est joli, mais... Le chrétien n'en est pas là sur la terre pour très longtemps. Quand on retourne pour le millénium, peut-être on peut avoir cette jolie chalet, mais on va être tellement occupé avec Christ de servir, on va probablement profiter aussi de faire des choses, mais on n'est pas ici de vivre une vie comme ça. Laissons les gens riches, laissons les gens perdus qui veulent vivre ça et refusent Christ. Et refuse d'écouter Christ. Laissons ces gens de vivre comme ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre ça. Mais c'est seulement pour cette vie. Ce n'est pas pour la vie à venir. Il faut savoir ces choses. Si on commence à refroidir dans notre amour, quelle est la solution? Plus proche dans le corps de Christ. Il faut avoir quelqu'un qui prêche comme Pasteur Stevens et qui crie comme ça et avoir le cœur brûlé, la chair qui sort littéralement par la porte, qui ne peut pas rester dans la même chambre, la même pièce, pardon, la salle. Ça veut dire qu'on doit être défié, on doit avoir un challenge. On a besoin de des gens qui disent, écoute, pas de bêtises, on marche avec Dieu. Regarde lui, pas regarde... Toutes ces choses. C'est joli de visiter, c'est joli pour les vacances, mais honnêtement, ce n'est pas la réalité. La réalité pour le chrétien, c'est la mission pour les âmes, c'est la mission pour servir Christ, c'est la mission pour glorifier Dieu, c'est la mission d'apprendre à vivre par la grâce. Et notre chair ne va pas nous laisser tranquille là-bas non plus. Parce qu'ici, on imagine qu'on bat cette vie, tu amènes ancienne nature pécheresse avec toi aussi, donc un monstre qui va être là avec toi. Bonne chance. Donc, pas, on ne va pas vivre. On va, si on a un mot pour Dieu, on est gagnant deux fois. Ceux qui vivent juste pour cette vie vont perdre tous. Nous, on peut vivre cette vie, on va pas avoir tout ce qu'on voulait, mais on va avoir une vie de joie, on va voyager à Nîmes le week-end, le mercredi prochain. On va voir des choses, on va expérimenter, ça va être une joie d'être avec le peuple de Dieu. On va voir finalement le soleil de nouveau aussi. On va avoir un moment, ces moments sont précieux. C'est vrai. À Sion, c'était magnifique d'être à Sion. On a profité de deux choses. On était dans une belle place. C'était très belle. Et en même temps, on a profité de toucher les âmes, de défier les gens, d'avoir des contacts, d'être en courage et d'être dans le corps de Christ. On est des gagnants deux fois parce qu'honnêtement, un chrétien peut voyager partout. Dans notre ministère, je n'ai jamais visité les endroits que c'était possible de visiter avant. Mais maintenant, on a une vie, on est amené, on est des visiteurs. Je viens de recevoir cette semaine, hier, un appel d'un jeune homme, non, lundi soir, qui a dit, on voudrait visiter Genève à la fin de août. Il est de Hongrie, il est étudiant biblique à MBCNS à Baltimore. Il a dit, on va prendre voiture, quatre de nous, et on va venir à Genève, après Montpellier, pour le récolte d'été, on voudrait être avec vous. Voir comment le Seigneur amène les gens dans nos vies aussi. On est gagnant. On est des relations, on est le corps de Christ. On peut voir des choses magnifiques, on peut être dans des endroits magnifiques, mais notre vie est passagère. Donc, profitons de ces moments sur la terre avec le Seigneur et le Seigneur va donner dans le bon contexte les bonnes choses. Est-ce qu'on peut manger un bon plat français dans un lieu? Oui, on peut manger des choses. On peut être dans la campagne française. On peut marcher, on peut être à Budapest. On peut faire tout ça. Mais on ne peut pas garder ces choses pour nous-mêmes. C'est pour Christ. Ça, c'est point numéro 5. Point numéro 6. Comment on vit sur la terre dans ces derniers jours? Parce qu'on doit discerner les esprits en 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Il faut tester les esprits. Dokimazo dans le grec. On va tester les esprits de voir si c'est vrai. Ça veut dire quoi? Le plus on avance dans la parole de Dieu, le plus on est entouré par le corps de Christ, le plus on est enseigné, le plus on marche avec le Seigneur, le plus on dit non les faux histoires, le plus on est occupé avec son peuple et on n'aime pas le monde, le plus on va discerner. Parce que, est-ce que quelqu'un travaille dans une banque ici? Non? Ok. Oui, dans une banque. Des fois, tu as l'occasion de regarder les billets. C'est possible de regarder les billets. Des fois, je pense, certains, quand on est donné un grand billet de 1000, très grand, tu commences à, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et comment tu sais que c'est faux? Parce que tu connais la vraie. Tu as vu le vrai, tu as examiné le vrai. Ah, ça, c'est un vrai billet. Et donc, quand c'est pas vrai, je sens tout de suite. Discernement, c'est la même chose. On connaît Christ, on connaît le caractère de Christ, et on connaît ses promesses, et on connaît sa parole. Et quand, parce qu'on connaît sa parole, parce que nous sommes des étudiants de la parole, on peut discerner quand quelque chose est faux. On peut dire, ça, c'est pas vient de Dieu. J'entends quelque chose, c'est quelque chose de faux ici. Et on peut défier aussi. Et le test est ça, en verset 2. Est-ce que Christ est venu dans la chair et il est de Dieu? Sinon, cet esprit n'est pas de Dieu, c'est un esprit d'antichrist. Donc, on peut discerner des choses qui sont faux. Il y a beaucoup de sectes. il va être beaucoup plus. C'est toujours le cas. Avec tous les sectes, il va détourner la vérité, mais garder une certaine vérité, garder une impression de quelque chose, mais c'est vrai, c'est faux. C'est triste, c'est faux, et on va pas être attiré à ça. Donc, de tester les esprits, est-ce que c'est vrai? Parce que beaucoup de chrétiens peuvent être séduits. Et le dernier temps, c'est possible pour un chrétien d'être séduit parce que si c'était dit en 1 Jean chapitre 4, c'est parce que c'est possible. Testez les esprits, mes enfants, j'ai en train de dire. Parce que vous, vous êtes nés de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés de Dieu et c'est des esprits qui sont amenés dans quelqu'un qui n'est pas un croyant, qui essaie d'amener une fausse doctrine. Donc, soyez attentifs, il est en train de dire. Et si c'est possible là, c'est possible maintenant aussi. Discerner les esprits, écouter, être enseigné. Et plus, parce qu'on n'est pas en train de chasser les faux nouveaux. Parce qu'on est en train de, on dit en anglais, we major in the, on est vraiment absorbé et focalisé et nous sommes spécialistes dans la Bible, dans les vérités, dans la doctrine. On connaît quand quelque chose n'est pas la doctrine. Donc, parce qu'on passe le temps de racheter le temps dans les choses qui comptent et pas les choses qui ne comptent pas. Point numéro 6 et point numéro 7 et on a fini. Et merci pour votre attention, mais on va finir avec ça. Le sixième point. Septième point. Merci beaucoup. Excellent. Donc, je suis à 7. On ne va pas procéder à numéro 13. Donc, 7. J'aime de finir à 7 par 6. Ou 666. OK. Point numéro 7. Toujours, 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 on est prêt à donner une réponse. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. C'est un verset utilisé souvent pour l'apologétique. 1 Pierre 3, 15. Toujours, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce qu'on est prêt pour le moment de donner une parole parce que quelqu'un dit, wow, pourquoi que tu es tellement positif? Pourquoi que tu es pas habillé comme nous? Pourquoi que tu parles avec un langage qui est différent? Pourquoi que vous avez des bonnes réflexions, pas comme les autres? Pourquoi que tu es sage? Pourquoi que ta vie est bien équilibrée? Pourquoi que tu es toujours quelqu'un fidèle avec les autres? Pourquoi que tu ne parles pas des dos des autres? Pourquoi que tu critiques pas les autres? Pourquoi que tu n'es pas contre les autorités et tu ne critiques pas les politiciens et les gouvernements? Mais pourquoi que tu as un respect pour les gens? Pourquoi que tu aimes les gens qui n'aiment pas? On peut avoir cet esprit. Est-ce qu'on est toujours comme ça? Non, pas du tout. Des fois, on a des moments, ça c'est vrai. Mais de savoir, on est en train d'être sanctifié et ça, c'est notre caractère. Comment de plus en plus progression. Mais d'être prêt à donner une réponse quand quelqu'un demande pourquoi. Pourquoi ces choses? Pourquoi que tu es différent des autres? On dit, OK, c'est le moment de parler. Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, on est en train de racheter le temps et on est sage envers ceux qui sont dehors. Ça ne veut dire pas physiquement dehors de cette salle, mais quand on est dans le monde, mais on n'est pas partie de ce monde, on peut avoir une parole édifiante et encourageante. Donc, on est focalisé sur les choses qui comptent et on peut donner une parole éternelle. On peut dire, écoute, mon espoir n'est pas dans ce monde. Mon espoir est dans un Dieu qui est mort sur la croix pour moi. J'ai une vie transformée par Dieu. Et maintenant, je suis changé pour l'éternité. Écoute, j'ai quelque chose qui peut changer ta vie pour l'éternité aussi. Comment on peut avoir une parole qui peut aider? On dit en anglais, c'est un chien qui mange un chat. C'est le monde est comme ça. On est des gens qui sont toujours agressifs, les gens qui toujours essaient d'être le premier. Et ils écrasent les autres. Voir le monde, le gagnant est toujours là et les autres sont perdants. Et cette attitude égotiste est toujours vient de cette pensée philosophique que ceux qui sont adeptes, ceux qui sont équipés et forts va gagner contre les faibles. Survival of the fittest, le survie de la plus forte. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est pas de Christ. On discerne tout de suite la source de cette doctrine. Et donc, on est prêt à donner une parole. Je sais que c'est le même pour vous. Vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un, un voisin peut-être, une voisine, d'encourager quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pèse, qui prend quelque chose de lourd, on peut aider. On est toujours là et on peut donner une parole. Les gens disent, mais pourquoi que tu es comme ça? Je suis adorateur de Jésus-Christ. Je suis sauvé. Et on peut confesser quelque chose qui peut changer les gens, qui peut, wow, j'ai besoin de ça. Je vois une lacune dans ma vie. Je vois quelqu'un qui vit ça. Il voit qu'on est authentique dans notre foi. Ça va amener une réalité, un témoignage de notre foi. Ça va toucher les gens. Comment on vit dans ce monde en train de descendre dans cette difficulté, stress et danger? Quand on marche avec Dieu, et parce qu'on marche avec Dieu, on regarde Dieu, on regarde sa parole, on discerne les faux esprits, on n'écoute pas les faux nouveaux, on est prêt à donner une réponse, on a une joie et on a une parole. Et c'est ça qui compte dans nos vies. Et on néglige pas d'être ensemble. Nos vies sur la terre peut-être dépendent de ces choses. Et Christ est avec nous. Donc, on n'est pas familier avec ces vérités. Que Dieu vous bénisse.